France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, enseignement privé, quels sont les termes du contrat ? Quid du caractère religieux de ces écoles et quid de la concurrence avec l'école publique ? Pas moins de 4 livres sur l'enseignement privé, dont 2 enquêtes viennent de paraître. Ils posent plein de questions et nous allons débattre de ces questions dans cette heure. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion et de croyance, y ont accès. Ça, c'est la loi Debré, 1959. Dès lors, voici mes questions en 2025. L'enseignement privé sous contrat donc scolarise environ 2 millions d'élèves dans 7500 établissements. Ça, c'est le chiffre de la Cour des comptes. Comment est réellement financé le privé aujourd'hui ? Par l'État, les collectivités locales, les familles, dans quelle proportion ? Deuxième point, quelle est l'importance de la dimension religieuse pour les établissements sous contrat ? A. Peut-on faire prier des élèves en classe avec un professeur payé avec de l'argent public, comme le souhaite Guillaume Prévost, secrétaire général de l'enseignement catholique, déclaration d'hier, 23 septembre. Moi, je pense qu'il faut autoriser les enseignants qui le souhaitent à dire une prière avec leurs élèves, pourvu qu'ils soient assurés des conditions de liberté de l'enfant. On voit, la loi Debré est toujours présente à l'esprit de ceux qui parlent de l'école privée sous contrat. B. En cette rentrée, quelle place pour les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ? EVARS, en langage éducation nationale, le secteur privé va-t-il les aménager au nom de son caractère propre ? Troisième volet, le recrutement du privé. Qui s'embourgeoise, ce d'après toutes les données disponibles aujourd'hui, contribue-t-il à dégrader l'enseignement public ? Question subsidiaire, l'enseignement dit libre serait-il porteur de réponses organisationnelles, éducatives ou pédagogiques qui correspondent à une demande des familles ? Explications et débats avec nos invités. Bonjour Pierre Merle.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur émérite d'université à l'Institut National Supérieur du Professorat d'Éducation de Bretagne, professeur à l'Université de Bretagne Orientale, je ne connais pas très bien
Occidentale.
Occidentale, c'est vrai. Oui, parce que la Bretagne orientale, ça ne veut rien dire. J'avais lu un peu vite. Vous venez de publier l'enseignement privé dans la collection Repères de la découverte. Donc, fin août, c'est riche d'enseignement. C'est une forme de que sais-je, un peu plus engagée. En tout cas, une vraie mine pour nous. Hélène House, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Parisien spécialisé dans les questions d'éducation. Vous venez de publier « Public ou privé, quelle école choisir pour nos enfants ?» chez Fayard. C'est une enquête extrêmement riche. Vous êtes rendu dans des écoles très différentes les unes des autres et vous donnez à voir la complexité de l'éducation aujourd'hui en France pour les parents, pour les élèves, les enseignants. On saisit l'épaisseur des situations avec ce livre dont j'ai apprécié la lecture. Je crois que ça s'entend. Bonjour Vivien Joby.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'établissement de l'ensemble, c'est comme ça qu'on dit, Saint-Michel à Annecy. Si on dit Saint-Michel, on comprend que c'est un ensemble privé. Il regroupe une école, un collège, un lycée d'enseignement général et technologique, un pôle BTS et une unité de formation par apprentissage UFA. Donc ça veut dire 2200 élèves âgés de 3 à 25 ans. Vous êtes, on le précise, ancien président du SNCEEL, je ne sais pas
SNEL.
Si c'est SNEL, c'est comme ça qu'on dit, syndicat des chefs d'établissement de l'enseignement libre, car c'est comme ça qu'aime à s'appeler l'enseignement privé sous contrat. J'ajoute qu'un autre ouvrage sur l'enseignement catholique vient de paraître au bord de l'eau. Il est titré « Enseignement privé catholique, comment l'État brise l'école de la République ». L'autrice, c'est Fabienne Federini, elle est sociologue. Bon, c'est plutôt une charge, c'est extrêmement intéressant aussi. Mais on commence avec une première question. Ce 24 septembre, et ce n'est pas un fait inédit hélas, un élève, mais là il a 14 ans, a poignardé sa professeure de musique. Ça s'est passé dans le Bas-Rhin au collège Robert Schumann. Alors on pense qu'il est question de santé mentale. C'est difficile aujourd'hui d'en parler. On n'a pas tous les éléments. Hélène House, en tant que spécialiste de l'éducation, quand vous entendez qu'un fait divers tel que celui-là a eu lieu, comment vous envisagez de le traiter? Comment vous regardez le traitement médiatique?
Bah, si déjà ça s'était passé en Seine-Saint-Denis où je travaille, je me serais rendue sur place, hein, en temps de parler avec la communauté éducative, les profs, appeler aussi les syndicats du département pour voir comment ça se passe et essayer de voir aussi s'il y a eu des signaux annonciateurs de cet incident et s'il y a eu si l'administration a manqué certaines choses. Là, je sais que ce matin j'ai regardé sur le site du Parisien apparemment, donc il s'était déjà fait remarquer pour des propos à la gloire d'Hitler. Donc essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis, est-ce qu'il y avait eu des choses mises en place, et puis après essayer d'analyser un peu effectivement cette question de la violence qui revient de plus en plus souvent à l'école, mais qui existe. Là pour l'émission, je me suis plongée dans les archives du Monde ce matin, j'ai vu qu'en 1900 qui existe depuis longtemps. En 1996, François Bayrou avait déjà lancé un plan pour la violence à l'école après le meurtre d'un prof à Dax. Donc en fait, c'est une question, je pense, qui est là depuis des décennies, cette violence, sauf qu'elle est de plus en plus médiatisée avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, tout ça nous remonte plus vite qu'avant.
Nous remonte plus vite tout en restant hyper dramatique, ça on est évidemment tous d'accord là-dessus. Pierre Merle, vous avez écrit, alors il y a longtemps, hein, je vais en ouvrage en 2009, donc c'est pas d'hier, sur la violence scolaire. Et enfin, est-ce que vous aimeriez retravailler sur cette question?
J'ai le projet de retravailler sur cette question dans le cadre de l'Institut National Supérieur du Professorat dans lequel je travaille. Et c'est une question tout à fait essentielle dans le quotidien des élèves et pour les professeurs aussi. C'est une vieille question parce que au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y avait des émeutes dans les lycées où parfois tout le matériel était cassé. Donc ce n'est pas qu'une question neuve, elle prend de nouvelles formes aujourd'hui, sans doute parce que le débat public est devenu plus violent. Et donc les enfants sont imbibés par l'ambiance de la société, ce qui joue aussi.
Question scolaire ou question de santé mentale? Parce que finalement, on en fait aussi une question scolaire. Évidemment, on pense au nombre de surveillants, au suivi aussi médical à l'école. On sait qu'il n'y a pas du tout assez d'infirmières scolaires et de médecins scolaires. On en parle souvent dans l'émission, Hélène House, mais en même temps, c'était un enfant placé. On sait que le suivi psychologique en France, en pédopsychiatrie...
Oui, l'aide sociale à l'enfant, c'est pas l'aide sociale
à l'enfant se porte hyper mal. Donc, est-ce que... l'école porte pas aussi le poids de défaillance?
Bah, c'est sûr que c'est souvent un discours qui revient chez les enseignants, le manque de moyens dans la vie scolaire, donc de surveillants, d'assistants d'éducation, de tout ce qui est conseiller CPE, les personnels aussi médicaux, donc les psychologues scolaires, les infirmières scolaires. Et ça, alors moi j'ai souvent couvert des faits de violence entre élèves et j'ai regardé justement une note de l'ADEP ce matin qui montrait que la violence dans les établissements dans le second degré est surtout centrée entre élèves et souvent c'est souvent une revendication qui vient après les incidents des professeurs en disant mais on a déjà manifesté pour avoir des personnels de vie scolaire, ça manque et ça les infirmières, ben, on n'arrive plus du tout à en recruter, donc ça se ressent aussi sur le suivi des élèves, donc pareil, il faudra à voir est-ce qu'il avait été suivi après les premiers incidents qu'il y avait eu au printemps. Mais de toute façon, je pense que les professeurs sauront très bien se faire entendre si jamais il y a eu des défaillances là-dessus.
Vivien Joby, pour prévenir la violence, c'est important d'avoir du personnel dans les établissements. Et là, je sors un peu la question du public-privé, parce qu'on ne sait pas très bien ce que les statistiques nous racontent, mais d'avoir du personnel pour à la fois surveiller, mais aussi exercer un rôle de prévention.
Alors tout à fait, permettez-moi simplement d'adresser tous mes encouragements à cette enseignante, avec le souhait qu'elle se rétablisse, à ses collègues et au chef d'établissement qui va devoir gérer la communauté éducative après cette agression. En fait, dans notre système, on fait une focalisation sur la transmission des savoirs, on confie beaucoup de tâches aux enseignants, mais on a besoin plus qu'hier, notamment par rapport à cette évolution de la société et la dégradation de la santé mentale des jeunes, d'un écosystème qui soit complété par d'autres acteurs dans l'établissement. Les infirmières scolaires, très important. Je me suis rendu au Québec pour observer et j'ai vu que dans les établissements, on avait aussi des éducateurs pour jeunes enfants, des psychologues, etc. Et donc que ça permettait de faire un traitement global des difficultés de plus en plus nombreuses qui rentrent à l'école. Donc je pense qu'effectivement, il faut d'autres acteurs que les simples enseignants, voire même que les simples surveillants, si nombreux soient-ils, pour aider à améliorer ce climat et remédier aussi à cette dégradation de la santé mentale des jeunes, qui est de plus en plus importante et de plus en plus rapide.
C'est presque une petite défense du service public, en tout cas d'une certaine vision de l'éducation. Je ne veux pas trop extrapoler, Vivien Joby, mais on entend que les besoins sont les mêmes partout aussi. Ouais. Alors, on va débattre. On va débattre de l'enseignement privé sous contrat aujourd'hui, et le premier point qui m'est venu à l'idée, c'est l'argent, le financement. On dit que l'enseignement public est financé à hauteur de 75% sur fonds publics. Ceci parce que c'est l'État qui paye tous les professeurs. En échange, on a entendu, quand j'ai cité la loi Debré au début de mon chapeau, d'un respect des programmes. Mais la question du financement, en fait, elle est beaucoup plus complexe, Pierre Merle, parce qu'il n'y a pas que l'État en lui-même qui finance, il y a aussi les collectivités locales.
Oui, alors, le chiffre de 75% est bon. Alors, en gros, c'est 10 milliards, mais en fait, il y a des approximations, parce qu'il est difficile de prendre en compte toutes les dépenses, notamment les dépenses administratives que le public assume pour organiser, en fait, le versement des fonds, la gestion des fonds, etc., au niveau des collectivités territoriales. Ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'il s'agit des dépenses de fonctionnement. Donc, en fait, il y a une partie des dépenses qui ne sont pas couvertes et qu'il y a un flou sur ces dépenses. Et puis aussi qu'il y a un flou, enfin, les contreparties ne sont pas toujours assumées et font l'objet de discussions. On parlera tout à l'heure de la prière en classe, par exemple. Est-ce que ça rentre dans les missions de l'enseignement privé ou pas, et sur la clause dont vous avez parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire que le fait qu'on finance
Le caractère propre.
Caractère propre.
Et donc comment
ça c'est le côté oui, liberté.
Oui. Comment on établit un contrat satisfaisant entre le caractère propre et puis le montant des financements. C'est une question qui reste discutée et qui reste discutée en fait depuis 1959. Et la frontière, elle se modifie assez régulièrement. Il y a eu plusieurs lois.
Au gré de quoi ? Parce que vous évoquez des textes, des lois, des votes dans votre ouvrage au début, quand vous vous livrez à une petite histoire. Oui. C'est hyper intéressant, Pierre Merle. Au gré de quoi ? Il y a des pressions politiques. Et quel est ce flou d'ailleurs dont
alors,
vous parliez ?
C'est-à-dire est-ce que les professeurs du privé sont payés comme les professeurs du public ? Quels sont les désavantages ou les avantages qu'on peut avoir ? Comment est calculée leur retraite ? Il y a plein de questions sur lesquelles la législation a changé. Il y a eu un certain nombre de lois, comme la loi Germer, où on a modifié les engagements en fait des enseignants, puisque maintenant ils doivent adhérer en quelque sorte au caractère propre de l'enseignement privé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on voit que les contreparties au caractère propre, les engagements des professeurs se modifient. Aujourd'hui, la question de la prière en classe renvoie à cette question de qu'est-ce que c'est que le caractère propre et qu'est-ce que c'est que l'équivalent, enfin ce qui est demandé, ce qui est exigé par rapport à ce financement public,
alors,
qui est très important.
On va revenir au caractère propre. On continue un petit peu sur l'argent parce que je voudrais faire un tour de table sur cette question. Libération nous apprend. C'était hier que Valérie Pécresse, mais c'est pas du tout la seule région à le faire, va voter de nouvelles subventions non obligatoires pour les établissements privés sous contrat. Et il y avait eu une autre enquête de mes confrères de France Info sur la question. Beaucoup de régions, de collectivités locales dépassent les recommandations, tout simplement, qui sont faites en finançant un petit peu mieux. Hélène House, c'est un point que les familles connaissent pas très bien.
Bah, les familles, elles ont des fois la naïveté de penser qu'elles vont dans une école privée, mais moi je trouve que le terme d'école privée est assez peu approprié, parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est financé à 75% par des fonds publics. Donc c'est pas en payant 2000 euros par an une école qu'on pourrait vraiment financer une école privée. On découvre le prix des écoles privées quand on a ses enfants dans l'enseignement supérieur. Là, ça coûte 10-15 000 euros par an.
Et ce qui est le coût entre guillemets d'un élève de l'enseignement public ou privé, enfin le coût d'un élève à l'année, c'est environ 10 000 euros par an.
Oui, bah voilà, donc ça veut dire qu'il devrait sortir ces sous-là. Donc moi je trouve ce terme assez peu approprié. Du coup, je dis toujours le vrai enseignement privé en France, c'est l'enseignement hors contrat qui scolarise plus de 80 000 élèves.
Et ce qui est très peu.
Ce qui est très peu, oui. Et donc, du coup, cette notion de privé, elle n'est pas appropriée. Et pardon, j'ai oublié le début de votre question. Après,
c'est une réalité qu'on connaît peu.
Oui,
en
oui,
fait,
oui, voilà.
La manière dont votent les subventions.
Ah oui, pardon, les subventions,
par exemple, en Ile-de-France ou dans d'autres régions.
Bah, il y a beaucoup de collectivités qui votent des subventions, elles sont dans leur bon droit, donc ça peut avoir une connotation politique, mais pas que. En Bretagne, je suis pas sûre qu'en Bretagne on soit très très à droite, et pourtant l'enseignement privé sous contrat.
Parce que c'est une tradition très forte dans l'Ouest.
Voilà, et là il remplace complètement, du coup même il est même plus présent des fois dans certains endroits que l'enseignement public. Je cite l'exemple d'une école, alors je sais pas si je dirais le bon mot de la le bon nom de la commune, je crois que ça s'appelle Malestroit, mais je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, où il y a une école publique intercommunale pour 8 villes, et dans chaque ville, en fait, chaque village, il y a quand même l'école privée. Donc l'école privée, pour le maire, en fait, c'est l'école privée du village. Donc cette notion de privé-public, à certains endroits, en fait, la frontière, elle est vraiment floue. Il y a quand même un système, l'enseignement privé sous contrat, c'est un enseignement, entre guillemets, public, bis, avec un grand avantage pour les parents, c'est qu'ils sélectionnent les enfants, et donc qui permet à leurs enfants d'être en cours avec des élèves d'un niveau généralement académique supérieur, et des fois avec moins de problèmes de comportement aussi.
Ça fait plein de questions à vous poser, Vivien Joby, mais je reste sur ma question du financement. Dans l'article de
la loi Debré, que vous avez cité,
oui. Oui, dans la loi Debré, mais aussi dans l'article mon collègue, dont le nom de famille est Le Borgne, dans France Info, sur le site de France Info, on apprenait aussi, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, que la manière de ventiler l'argent avec des dotations horaires n'est pas la même dans les établissements privés, parce que vous avez une grande enveloppe, et qu'entre votre niveau collège et votre niveau lycée, par exemple, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, et que c'est pas le cas. C'est ce que disait l'enquête. Et que, par exemple, on peut avoir des classes un peu plus chargées dans les collèges du secteur privé que dans ceux du public, et des classes de lycée un peu moins chargées. L'idée aussi étant de viser des très bons résultats au bac en privilégiant les classes à examen.
Oui, alors là, ça fait beaucoup de choses. Déjà, je voudrais revenir sur l'enseignement privé sous contrat n'est pas un enseignement public bis. Donc ça, j'essaierai tout à l'heure un peu plus loin dans le débat de le dire.
Mais financé avec de l'argent public.
Mais tout à fait. Alors, les sources de financement, on a la prise en charge de la formation et du traitement des professeurs. Voilà. On a le forfait d'externat, donc une part qui peut être versée par l'État et d'autres, enfin le complément par les collectivités territoriales.
Donc ça, c'est par élève.
Voilà, par élève, calculé sur la base de ce que coûte un élève du public, en ayant retiré toutes les charges afférentes au périscolaire, à la demi-pension, à l'internat, etc., puisqu'on parle bien de forfait d'externat.
Voilà, et ça, c'est ce qui va coûter cher si on met son enfant à l'école privée, qu'on veut des services supplémentaires.
Privé hors contrat, vous voulez dire?
Non, même privé sous contrat, en tout cas, ça peut être plus cher la demi-pension que dans le public. D'ailleurs, c'est une vieille revendication.
Bah, tout à fait. Et elle est... Alors, on parlait tout à l'heure de la Bretagne. Précédemment, j'étais en poste à Saint-Malo, effectivement. La grande différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir des contributions des familles qui vont être très faibles, mais on aura une vraie différence au niveau de la demi-pension, où on va avoir des repas qui vont être à 6 euros, 6,50 euros, tandis qu'on pourrait avoir à côté des repas subventionnés dans le public à 3 euros, voyez, voire pour des familles vraiment avec des moyens très très faibles, quasi gratuité. Donc là, il y a un vrai surcoût, et il existe le même surcoût d'ailleurs dans la prise en charge des transports, souvent au niveau des départements. Alors, sur les autres sources de financement, il y a effectivement les financements facultatifs que peuvent faire par exemple les départements ou les régions pour les investissements immobiliers, mais il y a quand même des limites, notamment par rapport à la loi Falloux. Donc pour l'enseignement général, il y en a moins pour la loi Astier puisque le pourcentage est beaucoup plus important par rapport aux frais de fonctionnement de l'établissement. Et puis après, vous avez aussi tout un tas de subventions qui peuvent être données par la puissance politique, parce que tu as un choix concernant le fonds social, ou même, parfois, l'aide à la cantine. C'était le cas, par exemple, à Saint-Malo.
Est-ce que vous demandez aux collectivités de vous donner plus d'argent? Est-ce qu'il y a un lobbying pour...
Oui.
Pour se faire mieux financer de la part du secteur privé.
Auprès de l'État, auprès des collectivités territoriales, parce que le forfait d'externat tel qu'il est calculé aujourd'hui, très sincèrement, n'est pas du tout à la hauteur des dépenses réelles par rapport aux élèves. C'est-à-dire que quand on envoie des petites commissions comme ça pour regarder dans les comptes publics et puis regarder vraiment ce qu'on devrait nous verser, eh bien, systématiquement, on montre et on démontre que le compte n'y est pas. Et s'il fallait voir, par exemple, tout simplement l'évolution du forfait ces dernières années, notamment dans la période post-Covid, on s'apercevrait que l'État est très en retard dans la revalorisation du forfait d'externat.
C'est intéressant parce que, Pierre Merle, ce que vous dites, vous, c'est que l'école privée coûte très cher par rapport au fait, par exemple, qu'elle sélectionne ses élèves. Et du côté de l'école privée, l'argent est peut-être utilisé sans les garanties qu'il devrait y avoir et les contreparties.
Alors on aura l'occasion d'en revenir peut-être dans la dernière partie.
Quand l'école privée demande, elle, plus d'argent sous contrat.
À propos du statut de l'enseignement privé sous contrat en France, il faut tout de même se rendre compte que c'est un statut qui est quasiment unique en Europe. Même, je pense qu'il est unique en Europe et au-delà. Parce que, en fait, si vous regardez la Belgique, où il y a un enseignement privé qui est financé comme le public, il n'y a pas liberté du choix des élèves. Si vous regardez les autres systèmes, par exemple aux États-Unis, ou en Angleterre, ou par exemple en Suisse, il y a un vrai privé. Mais il n'y a pas un espèce de privé
parce
qui est...
Parce qu'il y a liberté de choisir
donc,
ses élèves.
Soit c'est vraiment privé, et dans ces cas-là, ce privé choisit ses élèves, soit ce n'est pas du privé, et dans ce cas-là, il n'y a pas le choix de ses élèves. Donc on a un système en France qui est quand même très avantageux pour le système privé, puisqu'il a une grande partie de ces dépenses qui sont financées, les dépenses de fonctionnement, mais il n'a pas les contraintes qui vont avec. Et c'est tout de même cette spécificité qui pose question, est-ce qu'il y a les contreparties suffisantes, je dirais. Et ça, c'est un objet de discussion.
Oui, tout à fait. Mais c'est parce que il faut pas s'arrêter à la loi Debré, il faut remonter d'un cran. Il faut aller dans la Constitution qui garantit la liberté de choix des familles de leur école. En fait, c'est là qu'est le...
Oui, mais la Constitution ne précise pas que dans ces cas-là, l'État doit payer.
Oui, c'est ça, c'est une notion différente.
Mais la loi Debré a été organisée à partir de ce système constitutionnel, qui est d'ailleurs très ancien, vous le dites très bien dans votre ouvrage.
Oui, la liberté constitutionnelle. La liberté de l'école, c'est le décret Bouquier de 1793, donc c'est un décret révolutionnaire. Mais ceci dit, à cette époque, l'enseignement privé n'est pas financé. Donc il faut aussi reconsidérer l'époque et dire qu'on a vraiment, en 1959, modifié complètement notre organisation scolaire avec un système assez particulier.
Après, la liberté de choix, par exemple, pour les penseurs néolibéraux tels que Milton Friedman, ce serait le chèque éducation avec plus de financement de l'État, plus d'obligations, et chacun fait comme il veut, mais paye. On est dans un système, effectivement, extrêmement particulier.
Le problème de la liberté de choix, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais qui est problématique, parce que on peut choisir ce qui existe. Or, en fait, si on regarde l'évolution de l'offre de formation de l'enseignement privé, il y a de moins en moins de lycées professionnels, il y a moins d'élèves aussi scolarisés dans les formations technologiques, et de plus en plus dans les formations générales. Ce qui fait que les parents, plutôt d'origine populaire, qui scolarisent leurs enfants dans les formations technologiques et dans les formations professionnelles, n'ont pas toujours le choix de pouvoir scolariser leurs enfants dans le privé, à La Courneuve, à Grigny... Clichy-sous-Bois.
Ou dans les zones rurales.
Il n'y a pas d'école privée. Donc finalement, ce choix n'existe pas. Et puis, pour autant que des parents choisissent le privé. Après, il faut bien dire que c'est un choix, c'est un double choix. C'est-à-dire, les parents choisissent le privé s'ils le peuvent, et aussi si le privé les accepte.
C'est ce que
puisqu'en fait, il y a une sélection à l'entrée.
On va laisser parler à Hélène.
Donc, on voit bien que ce choix du privé, c'est un terme qui est, la liberté de choix est souvent mis en avant. Quand on l'étudie en détail, on se rend compte que c'est une liberté qui est deux fois conditionnée.
Mais est-ce que cette liberté de choix, c'est la liberté de choix des écoles privées de choisir et leurs
aussi,
élèves?
C'est plutôt ça pour l'instant, c'est le rapport de la Cour des comptes qui dit ça reste encore assez obscur les critères de sélection. Et il y a un rapport parlementaire qui est sorti aussi sur l'enseignement privé cette année qui dit la même chose. Donc souvent les parents, moi, ils me disent, il y a des gens qui m'ont dit, mais quand tu crois que pour aller dans une école catholique, il faut que je fasse baptiser mon enfant. Mais en fait, pas du tout, parce qu'ils accueillent tous les élèves. Voilà. Sauf que dans certains établissements, c'était le cas à Stanislas et dans d'autres établissements parisiens, ça c'était Pierre Laurent, le sénateur communiste, qui avait pointé ça. Il y a des dossiers où on demandait le lieu du baptême. C'était pareil dans les établissements juifs aussi, où on demandait certaines informations.
Les établissements juifs et musulmans, c'est un segment encore plus particulier, où là, on a assez peu d'élèves qui ne sont pas
de
confession juive ou musulmane.
Oui. Mais ils sont sous les mêmes règles, c'est-à-dire qu'ils sont censés devoir accueillir tout le monde, quelle que soit sa religion.
Puisque c'est comme... Ce sont les termes du contrat. Comment vous choisissez vos élèves?
J'allais vous dire, je vais vous répondre en tant que praticien, puis qui reçoit les parents pour l'entrée en sixième et pour l'entrée en seconde. Alors, je ne fais pas toutes les entrées dans l'établissement, vu la taille de l'établissement. Je suis aidé en cela par mes adjoints. Sur le terme de ségrégation sociale, moi, je ne regarde pas ce que font les parents. Hein, donc, je ne vais jamais dire, je ne prends pas cet élève-là parce qu'il est enfant d'ouvrier, où il vient de tel quartier, etc. On prend déjà, dans l'établissement que je dirige, mais c'est le cas vraiment dans la très très grande majorité. Je sais bien que dans vos ouvrages, vous citez des zones ponctuelles ou des établissements avec des fonctionnements très élitistes, mais globalement quand même, les établissements, et là on l'a vu avec la baisse démographique, les établissements privés, même si sous contrat ont une bonne cote et un bon niveau de demande, on n'a pas non plus partout des listes et des listes d'attente. Ça, c'est du fantasme.
Vous choisissez
alors
niveau
comment
scolaire
on choisit? Eh ben, par ordre d'arrivée, en fonction des bulletins, de la rencontre, de l'adhésion des parents, et c'est pour ça que c'est la différence avec l'enseignement public, à un projet d'établissement qu'on présente et qu'on explique. Et par exemple, c'est vrai que c'est difficile de dire oui à des parents qui vous disent que si leur enfant il est pénible en classe et qu'il n'a pas de bons résultats, c'est parce que les profs de l'endroit d'où il vient sont nuls et que de toute façon, l'établissement ne comprend rien. Là, on sait qu'on ne va pas être sur un pacte éducatif. Le secrétaire général a rappelé hier que l'enseignement catholique, c'était une école de l'alliance avec les parents. Ça, c'est quelque chose qui, fondamentalement, depuis le début, nous différencie aussi de l'enseignement public. La place des parents et leur reconnaissance dans la communauté éducative. Chez nous, d'ailleurs, qui avons inventé le terme communauté éducative en 67, ça, c'est vraiment la droite ligne
du Vatican II. Donc, vous sélectionnez des élèves qui vous paraissent avoir un bon niveau scolaire pour le niveau scolaire de votre établissement, qui sont motivés, vous ne les tirez pas au sort.
Non, pas que des élèves qui ont un bon niveau scolaire. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est un bon établissement catholique, vous regardez, généralement c'est celui qui va faire 98-97% de résultats, il ne fera jamais 100% avec 100% de mention, parce que lui, il va prendre des risques. Voyez, il va s'occuper aussi des élèves dont il n'est pas sûr qu'ils aient leur brevet ou leur bac. Ça peut arriver de se faire 100%, et c'est très bien, on s'en félicite. Mais voilà, mais quand c'est tous les ans et avec 100% de réussite, là, vous pouvez vous poser des questions. Mais là où l'enseignement catholique est massif, populaire, comme c'était le cas, par exemple, là où j'étais précédemment, en Bretagne, ou dans les Pays de la Loire, ou dans le Nord, vous n'aurez pas du tout ces résultats-là, cette pression scolaire-là. Et vous n'avez pas non plus la même pression pour la liste des parents qui vont vouloir rentrer dans l'établissement. Après, vous pouvez regarder aussi, effectivement, est-ce que les établissements inscrivent ou pas les gamins dans l'ordre d'arrivée, ou alors est-ce qu'ils font une grosse pile, et puis après, derrière, est-ce qu'ils prennent que ceux que ça leur intéresse.
Je pense que le mot populaire va faire réagir Pierre Malle. On va écouter quelques mots de l'allocution, donc c'était une conférence de presse de Guillaume Prévost hier, mardi 23 septembre.
L'enseignement catholique se donne, hier, aujourd'hui et encore plus demain, les moyens d'aller à la rencontre des fragilités. Vous savez, quand j'ai pris mes fonctions, J'ai un de mes premiers échanges avec un évêque, archevêque de Paris, qui m'a dit, bon, alors je lui raconte mes trucs, il me dit, oui, j'y comprends rien, je vous fais confiance. Il y a une seule chose que je voudrais que vous reteniez. L'enseignement catholique, c'est fait pour les pauvres. Nous devons approfondir la singularité de notre projet éducatif parce qu'il est bénéfique pour toute la société. Parce que nous sommes bâtisseurs d'unité. Parce que nous portons une conception singulière de la liberté comme engagement et pas comme indifférence. Et parce que nos établissements et l'ensemble de l'enseignement catholique est animé d'un esprit de service et de pauvreté. L'enjeu n'est pas aujourd'hui d'opposer l'école laïque, l'école publique, l'école hors contrat, l'école sous contrat, l'école Steiner, l'école que sais-je. L'enjeu, c'est de collectivement nous donner les moyens de relever le défi éducatif. Et mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont nous mettons en exergue nos conflits n'est qu'une façon de fuir nos responsabilités vis-à-vis des enfants. Ce n'est pas notre projet. Mais pour relever le projet éducatif, nous devons être pleinement chrétiens, pleinement universel, pleinement ouvert à tous, en d'autres mots, catholique.
Guillaume Prévost, secrétaire général de l'enseignement catholique. Pierre Marche, je suis sûre que ça va vous faire réagir. L'école des pauvres et puis l'idée que voilà, il y a moins de distinctions sociales. En fait, statistiquement, ils sont bourgeoises, cet enseignement privé sous contrat.
À mon sens, c'est du storytelling. C'est raconter une histoire sur l'enseignement catholique qui ne correspond pas à la réalité sociologique de son recrutement. Si l'article 38 des statuts de 2013 était vérifié, c'est-à-dire l'école catholique est une école pour tous, nous n'aurions pas les données statistiques que l'on peut établir avec l'indice de position sociale sur lequel j'ai travaillé. Et je dois dire que j'ai refait les calculs à plusieurs reprises, tellement j'étais surpris du résultat. Si je prends l'exemple des collèges, qui est le plus frappant, déjà en 2017, sur les 10% des collèges publics et privés qui ont le recrutement le plus populaire, il n'y en avait que 6% qui étaient privés, c'est-à-dire une toute petite minorité. Et aujourd'hui, enfin en 2022, quand on refait le calcul, il n'y en a plus que 0,5%. C'est-à-dire si on prend les 10% des collèges les plus populaires, il y en a plus de 99% qui sont publics. C'est-à-dire que progressivement, l'enseignement privé scolarise de moins en moins les enfants d'origine populaire. Et ceci existe depuis longtemps, puisque j'avais déjà fait des études dans les années 2010, où il y avait déjà des données de ce type qui montraient que progressivement, les collèges les plus populaires étaient fermés ou étaient délocalisés vers des communes bourgeoises riches, en fait, qui se développaient dans la périphérie des capitales régionales. Donc c'est un phénomène de fond qu'on constate aussi au niveau du lycée. Et l'objectif de l'enseignement catholique est très louable, qui est d'être ouvert, je cite, à toutes les formes de pauvreté, surtout aux plus pauvres et aux marginaux. Dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Si je prends par exemple les SECPA, Section Générale et Professionnelle Adaptée, qui sont constituées essentiellement par des enfants d'origine populaire, des femmes qui sont en situation de monoparentalité, sans emploi, le privé en scolarise que 5%. Sa part devrait être 20%, puisque normalement sa part c'est 20% des élèves. Donc on voit qu'il y a une sous-scolarisation des enfants en difficulté. Et aussi des enfants d'origine populaire. Il y a un phénomène sociologique qui est très net et très marqué, qui m'a surpris en fait. C'est un phénomène que j'appelle de déprolétarisation et en même temps d'embourgeoisement. Parce que dans les grandes capitales régionales, il y a un pourcentage, le pourcentage des lycées les plus favorisés, privés, augmente considérablement. À Nice, par exemple, sur les 30% des lycées, les plus favorisés, 100%, il y a 100% de lycées privés. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène d'embourgeoisement très fort et qui demande pas mal de temps pour l'expliquer, notamment la transformation de l'offre et puis des phénomènes sélectifs. Dans le rapport de la Cour des comptes, il y a des données 2023, il y a des données très intéressantes là-dessus qui montrent que 35% des élèves des lycées sélectionnent leurs élèves.
Hélène Hausse, tout ça, on le sait aussi parce qu'on a un indicateur qui est assez récent, on en a parlé, c'est l'indice de positionnement social, IPS. Et vous, ça vous a ouvert journalistiquement. En fait, je parle avec un masque et c'est hyper désagréable, c'est donc je m'excuse auprès des auditeurs. C'est plus compliqué pour articuler aujourd'hui, mais je protège mes invités de mes éventuels virus. Et donc, cet IPS permet aussi de bien mesurer, d'objectiver les différences sociales entre les établissements.
Oui, cet IPS, c'est un super outil journalistique. Parce que nous, les journalistes, on adore les... Et de recherche aussi. Mais on adore les chiffres. Et les chiffres, ce sont des faits. Et ça a montré, lorsqu'ils sont sortis en 2022, effectivement, qu'il y avait des grosses différences d'IPS entre le public et le privé. Aussi au sein de l'enseignement public, hein, parfois. Et donc, ça a montré cet embourgeoisement de l'enseignement privé sous contrat. Après, Monsieur Joby, effectivement, je pense pas que vous demandiez le bulletin de salaire des parents quand vous inscrivez les élèves dans votre établissement. Mais toutes les études montrent que les élèves qui réussissent le mieux à l'école, et c'est ce que montrent les IPS, que plus votre IPS est élevé, plus vous avez des chances de réussite à l'école. Ça veut pas dire que vous êtes plus intelligent que vos copains, mais vous avez plus de chances de réussite. Et donc, c'est calculé notamment en fonction du revenu des parents. Et donc, souvent, les élèves qui réussissent le mieux à l'école sont ceux qui sont issus de milieux favorisés. Et vu qu'il y a quand même une sélection dans le privé sous contrat sur le bulletin qui est demandé dans énormément d'établissements, peut-être pas la quasi-totalité, mais dans énormément d'établissements, et bah vous avez en fait une sélection de classe sociale, peut-être sans le vouloir, hein, mais à la fin elle se fait quand même.
Est-ce que le privé fait mieux que le public en termes d'accompagnement et de résultats des élèves au regard de votre enquête? Moi, j'ai ma petite idée au regard des chiffres et des études que j'ai lues, mais au regard de votre enquête à vous, Hélène Hausse, qu'est-ce que vous avez trouvé en allant dans toutes ces écoles, un peu dans toute la France, et des écoles privées, publiques, lycées généraux, professionnels, écoles élémentaires, etc.?
Le privé, il fait pas forcément mieux en fait, mais c'est toujours pareil. C'est là où vous avez plus d'élèves issus de milieux défavorisés, les risques d'échec scolaire sont augmentés. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de mixité sociale, vous avez beau avoir des super profs, comme c'est le cas dans un collège où je vais à Costa Gavras au Mans ou Leclerc dans la Somme, ils ont du mal à aller au-delà des attendus de l'éducation nationale, qui sont extrêmement bas quand vous avez des classes qui concentrent des élèves de milieux défavorisés. Donc le privé, je parle d'un groupe scolaire Saint-Vincent dans le 18e qui fait plutôt bien réussir ses élèves, mais qui prend tous les élèves du public de Saint-Ouen et une partie des
donc,
élèves du
18e arrondissement de Paris, où il y a par ailleurs des secteurs multicollèges, donc c'est hyper intéressant comme endroit à étudier, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Certaines politiques scolaires sont menées, le privé est assez important en extension.
Et donc le privé, il bénéficie du fait d'avoir des élèves qui sont plus de milieux favorisés, donc plus potentiellement forts à l'école. Il bénéficie d'une mixité sociale aussi, parce qu'il y en a là où il n'y en a pas dans les autres établissements du quartier. Et après, les études, elles montrent, elles, que il n'y a pas d'effet positif du privé sur le public. Même la dernière enquête PISA, elle montre que si on met de côté le niveau social des élèves, le public fait mieux. Par contre, si on ne le met pas de côté, le privé fait mieux. Mais si on met de côté le niveau social, du coup, ils disent que le public fait mieux en mathématiques.
À niveau social égal, oui, c'était l'étude que j'avais lue, c'est mieux pour les maths. Comment vous analysez? Oui, exactement.
Je vais essayer de répondre.
C'est important de vous entendre. Sur cet embourgeoisement et ces IPS, voilà, est-ce qu'on cherche à fuir le côté populaire de certaines écoles quand on est parent et qu'on vient dans vos établissements, dans votre établissement à quelque niveau que ce soit? Est-ce qu'on cherche à fuir des populations immigrées? La question se pose aussi, parfois, quand on va à l'école publique et qu'on dit, parce que c'est écrit dans le livre d'Hélène Hausse, il n'y a pas d'élèves blancs dans certaines classes, etc.
Alors, déjà, moi je reprécise quelque chose, hein. L'enseignement catholique, c'est fait pour les pauvres, pour les riches, pour ceux qui sont ni pauvres ni riches, qui sont au milieu, c'est fait pour tout le monde.
Voilà. Ça, l'école publique peut dire ça aussi.
Oui, tout à fait. Mais moi, je le redis. C'est ce que, quand Guillaume Prévost termine son propos par universel, c'est ce qu'il veut dire. Quand on dit que c'est pour les pauvres, oui, mais c'est pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui peuvent pas venir chez nous. D'un point de vue économique, il y a une participation des familles, il n'y a pas pour la cantine. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il y a une réalité qui est une réalité économique, déjà. On a beaucoup progressé depuis le protocole de 2023 signé entre Philippe Delorme et Papendaye, c'est-à-dire que les établissements catholiques, pour cette rentrée, ont massivement mis en place des contributions des familles différenciées. Par exemple, dans l'établissement dans lequel je suis, on va commencer avec une contribution à 30 euros par mois, au plus bas. Voilà. Donc, sur 10 mois, c'est-à-dire 300 euros. Non, sur les revenus fiscaux de référence.
Okay.
Voilà. Après, d'autres écoles pratiquent selon le quotient familial. Bon, après, chacun a son outil de mesure. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, puisque, effectivement, en 2021, c'est le point un petit peu de cette guerre scolaire qui reprend un peu du poil de la bête. Là, c'est la publication des indicateurs de position sociale, des indices de position sociale au collège. C'est là que le feu était mis aux poudres. On rajoute en 2024 l'affaire Oudéa-Castéra et la scolarisation de ses enfants à Stanislas. Et puis, on finit effectivement avec Bétara. Mais on est effectivement au départ sur les IPS.
Alors oui, il y a beaucoup de choses. Parce
non, mais
Bétara, c'est
encore autre chose.
De
mais...
violence,
oui, tout à fait,
dans un internat.
C'est pour expliquer le climat actuellement l'apparition d'ouvrages à charge contre l'enseignement privé, même si ce n'est pas pour les mêmes griefs, on est bien d'accord. Enfin, tout ça, bon, je termine. Juste pour dire qu'effectivement, c'est pour tout le monde, qu'il y a des limites par rapport au fait qu'il y a une contribution des familles qu'il n'y a pas dans le public. Après, il y a une erreur de structure, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Pierre Mel, qui fait un travail universitaire remarquable, très sérieux, etc. Mais sur ce qu'il en déduit, parce que là où l'enseignement catholique est massif, en Bretagne, encore une fois, dans l'Ouest en général et dans le Nord, il n'y a pas de différence entre les IPS moyens ou très très peu de différence.
À Rennes,
entre...
il y en a quand même. À Rennes. Ah,
on parle des capitales régionales, là ça c'est encore
oui,
autre chose.
Oui, mais c'est là où il y a des grandes disparités voilà. sociales aussi peut-être.
Oui, mais le biais, c'est l'histoire et l'implantation des établissements qui fait que, vous disiez tout à l'heure, on ferme les écoles rurales. On ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'il n'y a pas d'élèves. Les lycées
aussi,
professionnels,
le public le fait aussi.
On n'a pas, comme vous le citez dans votre livre, cette idée de vouloir monter en gamme. Là, il va y avoir un lycée professionnel qui ferme à Chiltigam, c'est parce qu'il n'y a pas d'élèves dans le Bas-Rhin. Et parce que l'enseignement professionnel coûte extrêmement cher en termes d'investissement. Voilà. Vous disiez tout à l'heure aussi, il n'y a pas de filière technologique. Ce n'est pas faute de vouloir faire des lycées polyvalents, M. Merle. C'est qu'on a très peu d'espace pour ouvrir des filières ou même pour développer les annexes. Ce qui est en train de se passer à Marseille, c'est remarquable. L'école de Provence qui va installer un collège dans le 15e arrondissement, dans les quartiers nord. Voilà. Mais ça, c'est très, très rare. On nous laisse très rarement nous implanter dans les périphéries, dans les zones nouvelles. Parce que l'argument qu'on nous oppose, c'est à partir du moment où vous allez arriver dans un secteur, aussi populaire soit-il, vous allez aspirer, et ça répond à votre question, vous allez aspirer une certaine partie de la population et pas
peut-être
une autre.
Les bons élèves, entre guillemets, de l'école publique, c'est une inquiétude qu'on
pas
entend.
Pas que les bons élèves, c'est surtout...
C'est une inquiétude c'est, qu'on entend
en fait, derrière,
les élèves de catégorie favorisée. En fait, est-ce que vous nuisez à la mixité sociale du public?
Il y a quand des élèves
qui écrivent beaucoup de chercheurs.
Qui viennent de familles où les parents croient encore que l'école va pouvoir faire quelque chose. Vous avez des endroits aussi où les parents se moquent totalement de l'école. Enfin, c'est le cadet de leurs soucis.
C'est intéressant que... on est parlé de storytelling.
Oui.
Alors, vous employez beaucoup de formules qui sont très positives sur l'école privée sous contrat. Très bien, vous défendez cette école. Il n'y a pas de storytelling pour l'école publique, on dirait. Hélène Hausse.
L'école publique, c'est qu'elle va mal, que les élèves
oui,
sont d'un mauvais niveau, qu'ils sont violents. Enfin, voilà. Et que face à ça, le privé va sauver les parents. Et encore une fois, alors qu'ils ne savent pas quelle est vraiment la différence de fonctionnement entre les deux. Il n'y a pas beaucoup plus de moyens dans l'enseignement privé sous contrat. Les profs sont très souvent contractuels. Enfin, plus souvent en tout cas que dans le public. Et dans certains établissements de Seine-Saint-Denis, j'ai eu des taux à plus de 60%. Alors, on dit maîtres délégués dans le privé sous contrat.
Oui.
Contractuels, mais c'est l'équivalent des contractuels dans le public.
Ça veut dire
qu'ils ne sont pas diplômés.
D'un diplôme pour enseigner.
Oui,
donc oui, c'est ça la storytelling du... C'est pour ça qu'en fait, quand vous posez des questions, des sondages où on dit aux parents, est-ce que vous êtes pour l'enseignement privé? Enfin, tout le monde va dire oui, parce que tout le monde veut avoir une solution de repli. Mais la question, c'est...
Solution de repli, c'est aussi parfois un choix volontaire. C'est pas simplement une solution de repli, je vous assure.
Bah, pour certains parents, c'est une solution de repli. Ceux qui vont justement dans les deux écoles, qui représentent, je crois que c'était 6% qui vont que dans l'enseignement privé sous contrat. 50% qui vont que dans le public, et en fait, il y a un Français sur deux qui utilise l'enseignement privé sous contrat à un moment de la scolarité de son enfant, parce qu'il estime que là, c'est plus possible, il y en a besoin. Donc c'est toujours quand même vu comme une solution en plus, et donc face à ça, donc qui va venir sauver l'élève face à un public qui est de plus en plus défaillant. Mais en fait, les deux fonctionnent à peu près pareil, donc à certaines exceptions, donc plus de contractuels, plus de maîtres délégués dans le privé, moins de professeurs agrégés, plus d'élèves par classe.
Attendez, alors ça aussi, c'est
plus
ça,
d'élèves par classe
ça,
au collège.
Il n'y a pas d'agrégation dans le privé au concours externe. C'est uniquement un concours qui existe dans le public. Mais d'ailleurs, après, quand Pierre Mère dit que la masse salariale est plus importante parce qu'il y a plus d'agrégés, forcément, nous, on ne peut disposer que de l'agrégation interne. Donc, évidemment, et qu'il y a moins d'agrégés dans le...
Oui, mais ce que je veux dire, quand vous cherchez le côté « je veux le meilleur pour mon enfant », tout le monde pourrait dire, des profs, l'agrégation, oui, c'est alors, quand même un diplôme.
Arrêtons de raisonner uniquement sur la valeur scolaire, parce que là où je suis tout à fait d'accord avec les enquêtes qui ont été menées, c'est que dans une catégorie d'IPS équivalent, le privé fait pas mieux que le public en termes de résultats scolaires.
Et c'est vous qui le dites.
Mais c'est vrai. C'est intéressant. Mais on reçoit
ni moins bien.
Ni moins bien. Moi, j'ai mes comparatifs là de brevets que je viens de recevoir de l'académie. On est tout juste au-dessus de la moyenne, ce qui veut dire qu'on fait bien dans notre strate d'IPS. On est, je sais pas combien, 20 points ou 30 points au-dessus de la moyenne.
Mais le storytelling marche tout de même, puisqu'il y a l'idée dans les enquêtes d'opinion que le privé ferait mieux, qu'il accompagnerait davantage,
c'est
etc.
Vrai, mais sur l'autre champ, c'est-à-dire sur le champ éducatif.
Sur
l'accompagnement,
ça,
on n'en parle jamais, parce que vos indicateurs, ils sont quantitatifs, ils ne sont pas qualitatifs.
Il n'y a pas de données, en fait, là-dessus.
Mais parce que vous ne faites que des indicateurs quantitatifs.
Je voudrais revenir à cette histoire de storytelling, mais on peut chercher à le dire en français, d'un récit autour de l'école. Ce récit, on cherchait des archives avec Camille Maty qui réalise l'émission, alors évidemment, on écoutait Michel Sardou, parce qu'il a sorti plusieurs chansons sur l'école, dont Les Deux Écoles. Alors, on vient en 84, et c'est vrai qu'après ce conflit autour de la loi Savary, on aurait enterré, je dis on aurait, il y a toujours du conditionnel, ça revient quand même, mais enterré cette guerre scolaire, et que, en disant aussi que les familles passent de l'un à l'autre, finalement, ça se vaut, il n'y a plus d'un côté le camp de ceux qui défendraient l'école publique. Et je reviens à ma question, est-ce qu'elle ne manque pas de storytelling, et peut-être même de défenseurs, l'école publique, Pierre Mère?
Oui, alors, tout à fait d'accord. Et ce qui est assez accablant parfois, c'est que les ministres ne défendent pas l'école publique et même parfois, je dirais, favorisent l'école privée. Quand on regarde les créations d'emplois, plutôt l'augmentation du nombre d'enseignants dans le public et dans le privé sur les trois derniers quinquennats, le quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a eu 4500 professeurs en plus dans le privé, et il y en a eu 17 000 en moins dans le public. Évidemment, cette augmentation du nombre de profs dans le privé permet des ouvertures de classes, notamment dans les lycées ou les collèges qui sont recherchés, alors même que parfois, les recteurs le disent, et c'est dans la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes, il n'y a pas besoin de reconnu, il n'y a pas de besoin scolaire reconnu. C'est-à-dire, le ministère décide qu'une classe va être créée dans un lycée, alors que dans un lycée privé, bourgeois, alors que finalement, il n'y a pas de besoin scolaire reconnu. Donc, il y a des créations de postes qui créent de la concurrence, alors qu'en fait, il devrait plutôt y avoir de la complémentarité.
Et c'est drôle parce que dans votre livre, Hélène Haus, vous pointez aussi, et c'est vrai qu'on n'ose pas toujours le dire, là où le fait que les ministres, par exemple, scolarisent leurs enfants dans le privé, oui. Ou qu'eux-mêmes aient été
de gauche aussi,
élèves du privé, en fait, c'est ultra majoritaire. Bon, il faut qu'on parle du caractère propre.
Juste, si je peux me permettre, sur la
seconde,
défense du public, j'y vais très vite. Il y a quand même des associations de parents d'élèves, FCPE, qui sont très pro-public, les syndicats d'enseignants, etc. C'est vraiment, là, par contre, la parole politique qu'on n'entend pas. À gauche, on n'entend personne qui veut révolutionner l'enseignement privé sous contrat. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais ce n'est pas quelque chose qui prend politiquement aujourd'hui. Ce n'est pas dans les programmes de changer complètement la loi Debré, par exemple. Par contre, il y a des gens dans des associations.
La loi Debré, c'est une loi de concorde. C'est-à-dire, on réconcilie enfin une partie de la France avec une autre. Je ne crois pas qu'on ait intérêt aujourd'hui, vu l'état de division de la société française, à en remettre une couche avec l'école.
Il y a quand même des sujets de discorde, peut-être, et ça concerne...
La prière dans la classe.
Oui, la prière dans la classe et l'enseignement de l'Evars, donc de la vie affective, relationnelle et sexuelle, même si c'est pas une motivation, forcément, hein, la motivation, c'est plus de chercher le meilleur, entre guillemets, pour son enfant. En fait, j'ai parlé de ça avec Alexis Da Silva, il a publié une enquête quand les écoles privées religieuses font leur loi, c'est chez Robert Laffont. Et en fait, le contrat achoppe souvent sur le sexe.
Le fil rouge dans les écoles catholiques, juives et musulmanes, c'est le tabou de la sexualité. Ces écoles, normalement, doivent effectivement tous les ans mettre en œuvre des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais elles doivent aussi, dans le cadre du cours de SVT, par exemple, faire des cours sur la reproduction. Ce qu'on constate, c'est que souvent, ces cours-là ne sont pas faits ou alors ils sont expédiés. Dans mon ouvrage, je donne l'exemple de cette école juive ultra-orthodoxe où les schémas des appareils reproducteurs sont recouverts par du scotch noir. Les tableaux de la Renaissance aussi, hein, donc tout ce qui a trait à la nudité dans cette école, c'est quelque chose qui a été évité. Je donne l'exemple dans une autre école d'une élève qui ne savait pas jusqu'à 16 ans comment on faisait des enfants. Donc ces écoles qui sont normalement censées respecter le cadre légal, puisque c'est la condition sine qua non pour qu'elles puissent bénéficier de ces subventions publiques, souvent effectivement elles ne les respectent pas. Dans la loi de Bray, il y a ce qu'on appelle le caractère propre des écoles. Le caractère propre des écoles, c'est une notion un peu floue qui désigne un projet éducatif spécifique, donc en l'espèce religieux, mais ça peut être aussi un enseignement de langue régionale, par exemple. Et dans la mesure où ce caractère propre, il n'est pas complètement défini dans la loi, et bien sur le terrain, ça donne lieu à des interprétations assez différentes. Il y a beaucoup d'écoles qui vont imposer des cours, alors non pas de catéchisme et de culture religieuse, mais en réalité c'est du catéchisme déguisé, hein, souvent c'est ce que je révèle dans mon ouvrage, au nom de ce fameux caractère propre. Par ailleurs, je donne aussi l'exemple de ces professeurs qui sont invités à accompagner leurs élèves sur leurs heures de cours à des célébrations religieuses, toujours au nom de cette identité religieuse de ces écoles. Quand on interroge des juristes, des syndicats, bah souvent ce qu'ils disent c'est que c'est illégal, puisque au-delà du respect du programme de l'éducation nationale, ces écoles, elles doivent aussi respecter la liberté de conscience des élèves et de leurs professeurs. Dans le cadre de l'EVARS, donc il y a un nouveau programme qui a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Et effectivement, il y a une véritable bataille autour de des questions de genre, notamment. Dans le programme initial, il y avait 17 mentions de l'identité de genre. Le but était notamment de travailler avec les enfants autour des stéréotypes de genre, donc c'est-à-dire cette idée selon laquelle quand on est une fille, on aime le rose, ou quand on est un garçon, on aime le football. Il y a pas mal d'associations. Je pense par exemple à SOS Éducation, qui est une association très conservatrice, plutôt à l'extrême droite. Le collectif Parents Vigilants aussi, d'Éric Zemmour, qui a fait de l'EVARS et de la lutte contre l'idéologie de genre, la théorie du genre, son cheval de bataille. C'est quelque chose que j'ai pu avoir dans les écoles juives et musulmanes aussi, des parents qui me disaient, et puis même des élèves qui me disaient, on est dans ces écoles parce qu'on a envie d'avoir une éducation religieuse particulière. Et donc, je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de ces représentations de la nudité qui étaient recouvertes par un scotch noir. La plupart des élèves qui m'ont raconté ça, en réalité, eux n'étaient pas choqués. C'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était absolument normal que dans ces écoles-là, qu'on ne parle pas de sexualité avant le mariage. Je donne un autre exemple aussi en cours d'éducation religieuse dans une école musulmane. Ce qui était rappelé aux enfants, c'est qu'une fille et un garçon ne pouvaient pas se retrouver isolés dans une même pièce s'ils n'étaient pas mariés, parce que leur troisième compagnon sera Satan. Dans le cadre de l'EVARS, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les écoles catholiques ont souvent tendance à recourir à des associations maison. Des associations qui vont soutenir ce qu'ils appellent l'anthropologie chrétienne. Alors, c'est très simple, l'anthropologie chrétienne, c'est l'idée selon laquelle la vie est sacrée, donc l'avortement est interdit. C'est l'idée selon laquelle l'altérité entre les femmes et les hommes est importante car elle est voulue à l'image de Dieu. Et donc, en filigrane, une critique de l'homosexualité. Moi, il y a beaucoup de syndicats, même d'élus politiques, qui me disaient, est-ce que ces écoles doivent continuer à bénéficier de subventions de la part de l'État? Ou en tout cas, est-ce qu'on ne doit pas plus contrôler aussi ces écoles? Dans le cadre de l'affaire Bétarame, ce qu'on a constaté, c'est que pendant... Alors que c'est un sujet un peu différent, mais pendant presque 30 ans, l'école n'a pas été contrôlée. Le rapport de la Cour des comptes de 2023 que je citais parvenait à la même conclusion. Ce qu'il était écrit noir sur blanc, c'est que le contrôle administratif, pédagogique, financier de ces écoles n'était pas réalisé. Peut-être que les services du ministère gagneraient à renforcer, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été annoncé par Elisabeth Borne, le fait que de nouveaux inspecteurs allaient être déployés pour renforcer les contrôles dans ces établissements.
Double question, Vivien Joby. Est-ce que les VARS, vous pouvez l'appliquer, enfin les programmes, les transmettre tels qu'ils sont aujourd'hui? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut prier avec des professeurs payés par l'Éducation nationale?
Alors moi, je vais vous répondre à titre de chef d'établissement, hein, pas de responsable institutionnel. Les VARS, ça fait partie des programmes, ça fait partie donc du contrat, c'est pas négociable. Après, sur les détails du programme de les VARS, il y a certainement des choses qui peuvent piquer. Je rappelle encore une fois qu'on a certains de nos parents qui sont effectivement dans une adhésion au projet éducatif parce que c'est un projet chrétien, et que la question, sans la parodier comme ça vient d'être fait, de l'anthropologie chrétienne, elle est effectivement sur une différence d'appréciation de ce que c'est que l'altérité par rapport au sacro-saint principe d'égalité. Mais moi, quand je lis les textes...
L'altérité homme-femme.
Homme-femme, mais pas que. Enfin, okay. Voilà. Quand je lis le document d'accompagnement de l'EVARS, hein, qui s'appelle « Principes, valeurs et finalités », franchement, qui peut être contre ce qui est dit?
On
veut former des êtres libres et responsables. Okay, en plus, ça, c'est un vocabulaire qui est éminemment chrétien. Si vous relisez l'épître de Paul aux Galates, non, mais ça a été repris, mais en tout cas,
je vous le retrouvez. Tout court, mais je vois ce que vous voulez dire.
Vous le retrouverez dans beaucoup de projets éducatifs d'établissement. Voilà. En plus, c'est dit que ça va être fait de manière globale, positive et bienveillante. Je ne vois pas en quoi c'est un souci. Après, que établissement catholique d'enseignement sous contrat, il y ait aussi une partie catholique qui soit faite, mais cette fois-ci, elle va être faite de manière optionnelle, volontaire et en dehors des heures de classe, sur éventuellement un complément qui peut être proposé aux élèves.
Le fait d'avoir un enseignement religieux, de prier, par exemple. Non, mais parce que c'est ce qu'a quand même dit Guillaume Prévost hier. C'est...
Oui, alors Guillaume Prévost, on doit pouvoir il faut le laisser arriver aussi. Voilà, il va falloir qu'il s'acculture aussi un peu à la dimension contractuelle, même si, encore une fois, moi je ne m'exprime pas au niveau institutionnel, mais non, très clairement, les termes du contrat ne permettent pas actuellement de faire une prière en classe avec des enseignants qui sont des agents publics contractuels. Voilà, ça évoluera peut-être, j'en sais
rien.
Alors,
vous n'êtes pas la même chose que votre secrétaire général.
Je ne suis pas le secrétaire général.
Non, mais c'est intéressant que vous le disiez en tant que chef d'établissement.
Mais d'ailleurs, c'est assez curieux. Enfin, on change complètement de style comparé à Philippe Delorme, qui était avant le secrétaire général. Donc ça, c'est un choix aussi de la Conférence des évêques de France.
Mais c'est une question que je me suis posée. Est-ce que vous sentez un retour du religieux dans certaines écoles confessionnelles?
Ça, moi, je
des revendications
pas vous...
plus fortes.
J'aurais tendance à dire, enfin, non, parce que pour moi, c'est pas forcément toutes les études montrent que c'est pas la première raison des parents dans les écoles catholiques. C'est différent dans les écoles juives. C'est pas forcément le caractère propre. Mais en tout cas, il y a eu un choix de la Conférence des évêques de France de mettre ce monsieur-là, qui a un discours beaucoup, beaucoup plus rentre-dedans que son prédécesseur, en tout cas. Oui.
Rentre-dedans. Pourquoi? Ou catholique. Tout dépend comment...
Oui, mais sous contrat. Donc,
Pierre Merle, le mot de la fin.
Le contrat, c'est que les professeurs doivent faire tout le programme, tous les programmes, et rien que les programmes. Donc la prière dans la classe ne fait pas partie du programme. Alors qu'il y ait des prières qui soient organisées de façon facultative pour les élèves qui le souhaitent, c'est le projet de l'établissement catholique. Donc sur ce point, il n'y a rien à dire. Mais dans les faits, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'établissements, j'en connais à Rennes, qui au moment de l'inscription indiquent que les élèves doivent suivre une instruction religieuse ou une formation chrétienne, etc. Ceci ne correspond pas au contrat. Donc, il doit y avoir un certain nombre d'inspections qui permettent de savoir si le contrat est respecté ou n'est pas respecté, de façon à éviter une dérive qui existe depuis longtemps, puisque dès 1962, la Conférence des évêques avait souhaité qu'il y ait des prières chaque matin dans les établissements privés sous contrat, alors qu'il est clair que ces prières ne doivent pas être imposées aux enfants compte tenu du respect total de leur liberté de conscience. Donc, si on est le contrat, rien que le contrat, il y a moyen d'une coexistence convenable entre le public et le privé, sous réserve qu'il n'y ait pas ce phénomène d'embourgeoisement qui revient finalement à déséquilibrer les deux secteurs et finalement à créer de la ségrégation socio-scolaire qui aboutit à construire des mauvais résultats d'une partie des élèves dans les évaluations PISA.
Des élèves français en général.
Oui.
Merci beaucoup Pierre Merle. L'enseignement privé, c'est publié à La Découverte. Hélène House, je rappelle le titre de votre ouvrage, Public ou privé, quelle école choisir pour nos enfants. Mais je trouve que le titre rend pas tout à fait hommage à l'enquête que vous avez effectuée et qui est extrêmement intéressante et que j'ai bien aimé lire. Je voulais vous parler d'un ouvrage de Clémentine Beauvais-Rouge publié chez Bayard, mais je crois que je le ferai la semaine prochaine parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Ça parle d'érotophobie. Je me demande si même on va pas faire une émission sur les promesses esthétiques, voilà, qu'on fait aux jeunes filles. Merci à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, une émission réalisée par Camille Mathy et mise en onde par Alexandre Dang.